ça, surtout qu'on a des ralentissements. Direction ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne. Sur la rive sud, ben, y a la 20 où c'est complexe, là, entre la route du président Kennedy et Taniata. Pour le reste, ça roule quand même assez bien. C'est les grandes artères de d'habitude là, qui sont bouchées. Puis un peu plus tôt, évidemment, parce qu'on est vendredi. S'il y a quoi que ce soit, c'est le 88-971-1021 texto.
C'était pas dans ma liste d'objectifs de vie de mentionner cette phrase, mais quand la vie vous fait une fleur, il faut la saisir au vol. Je vous présente mon ami Hall of Famer. Pierre-Aude, salut, comment ça va?
Salut Denis, bonjour Audrey.
Allô.
Ben écoute, on me l'a fait à quelques reprises là, depuis lundi dernier.
J'imagine.
Celle-là. mais bon, je la prends en riant, je la prends modestement. Mais je prends ça aussi avec... tout le monde me dit de l'accepter. Alors, c'est ce que j'essaie de faire encore un peu difficilement, mais... voilà, c'est maintenant une réalité avec laquelle je dois composer.
Moi, j'ai
avec laquelle je dois vivre.
Là, j'ai quelques questions à te poser. Pierre, d'abord, je veux savoir comment tu t'es senti pendant la cérémonie. J'ai vu les images passer sur les réseaux sociaux de RDS, puis j'avais le poil droit de ses bras. J'essayais de m'imaginer comment on se sent après 40 ans de carrière à recevoir un hommage que seulement 3 francophones avant toi ont reçu. C'était quoi ton feeling?
J'étais, écoute, je dirais pas terrorisé, Denis, mais j'avais un niveau d'angoisse vraiment assez rare. Je dirais peut-être les 2 heures avant le lunch, parce que nous, évidemment, c'était au lunch du lundi.
Oui.
C'était, je pense que c'était de l'angoisse. Tu sais, quand tu te sens le souffle un peu court, puis t'es un peu... comment je pourrais dire ça? T'es un peu impatient, t'es déjà prêt, tu fais les 400 pas dans l'hôtel, et puis c'est... Oui, je pense que c'est une forme d'angoisse. Puis là, Lynn a dit, mais pourquoi? T'as tellement été souvent sur une scène, t'as tellement animé de soirées, t'as 3500 matchs, t'as 600 Grands Prix, t'as bon, et ainsi de suite. Ben, je disais, je pense que la raison, c'est que là, il faut que je parle de moi. Enfin, parle de moi. Et finalement, j'ai réalisé que je n'ai pas beaucoup parlé de moi. J'ai surtout remercié tous ceux que je voulais remercier. mais tu comprends ce que je veux dire? C'est ouais. Que c'est, tu dois livrer une grosse tranche de ta vie parce que c'est ce que tu dois faire et c'est ce que tu veux faire. Et là, tu es bombardé de toutes sortes d'émotions et de sentiments. C'est l'humilité, c'est un certain déni. Est-ce que je mérite ça? Pourquoi moi? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça a été, je dirais, les heures avant, c'était assez angoissant, merci. Là, quand on est arrivé, parce que je reviendrai à la soirée du dimanche, parce que je ne veux pas m'éloigner de ta première question. Mais là, je suis arrivé là-bas. Donc, et nous, ce n'était pas au Temple de la Renommée comme tel. C'était l'édifice en face. C'est l'ancienne bourse de Toronto.
OK.
Qui est un magnifique édifice patrimonial. C'est préservé, c'est restauré, c'est fait justement avec des grands salons pour des grands événements comme ça. Et là, quand je suis arrivé sur place, écoute, j'avais une haie d'honneur, c'est pas tellement compliqué, avec mes collègues de RDS, avec ma famille, mes amis qui étaient là. Et c'était pas une vraie haie d'honneur, mais ils attendaient tous dehors parce qu'on voulait prendre la photo, on voulait immortaliser le moment. Et donc, ça m'a comme un peu fait sourire, ça m'a rassuré un peu. Et puis... ben écoute, le lunch a commencé et puis j'ai vraiment commencé, c'est drôle, hein, j'ai commencé à me détendre quand j'ai eu à livrer mon discours. Je le maîtrisais bien, j'avais pris beaucoup de temps pour l'écrire, il était très réfléchi. Et puis à mesure que je livrais, je me sentais un peu mieux, un peu plus en paix avec moi-même.
Fait que dans le fond, Pierre, le plus gros stress, je pense l'avoir saisi, puis je pense l'avoir placé chronologiquement. Le plus gros stress, c'est que tu voulais que le coach te fasse, là.
Ben, en fait, non seulement il me fait, il est un peu grand. Ça me rassure. Ça m'a rassuré un peu parce que, écoute, tu le regardes, tu dis, bon, là, j'ai vraiment dit mon point, enfin, ma pointure, si tu veux. Alors, j'ai dit, écoute, ça devrait. Là, je le regardais, je dis, Aline, bien sûr que ça va me faire.
Mais c'est parce que j'ai dit ma pointure à Amazon souvent, puis ça fait pas des fois. Hein?
Ben là, j'avoue que la coupe du veston diffère un peu de mes habits. Alors, il est un peu grand. Fait que là, écoute, on fait des retouches parce que je vais le reporter lundi soir. D'ailleurs, tu me demandais sur ton message privé, tu me demandais qu'est-ce qu'on fait avec ce veston-là.
Oui, bien c'est ça. Ah. Est-ce qu'on affiche ça? Est-ce qu'on met ça dans un cadre? Est-ce qu'on le porte à l'occasion? Qu'est-ce qu'on fait avec ce veston-là?
Oui, bien j'imagine qu'on le porte à l'occasion quand l'occasion s'y prête. Mais on le garde bien sagement dans sa housse parce qu'on ne veut pas trop l'abîmer. Mais là, on a fait faire quelques petites retouches pour lundi parce que... enfin, je peux vous donner le scoop, mais on va souligner mon intronisation au Centre Bell lundi soir.
Ah, génial!
Contre les Oilers. Alors voilà, tu vois, ça c'est un exemple. C'est un exemple où tu portes le veston parce que c'est ça qu'on souligne. Alors écoute, c'est une occasion. Alors, mais j'étais très rassuré qu'il était même un peu grand. Alors je me suis senti déjà un peu mieux dans mon self-esteem.
S'il avait fallu qu'il soit trois pour réussir à te mettre le jacket,
ça aurait,
là, ça aurait été des images virales un peu désagréables.
Oui, ça aurait été très gênant. Mais j'avais vraiment vérifié avec tous ceux, avec tous mes conseillers, enfin pas les conseillers, mais tous ceux que je consulte pour m'habiller. Alors ils ont dit oui, c'est bien ça que tu dois demander. Alors c'est ce que j'ai demandé. Et heureusement, je devrais le faire rapetisser un peu plutôt que le contraire.
Pierre, je sais que tu es très humble, puis ça fait partie de ton charme aussi comme personnalité publique. Pour les gens, tout ça fait du sens, mais est-ce que toi, tu réalises l'ampleur de ce que tu as réalisé dans ta carrière, de ce que tu peux représenter pour les gens à travers tout ça?
Ah, c'est une très bonne question. Je te dirais, j'ai envie de répondre non d'emblée, mais avec la dernière semaine, Audrey, je ne peux pas faire autrement. Et avec écoute, ça a été... Je n'ai même pas eu le temps encore de tout lire et de tout entendre, et certainement pas de répondre, parce que vous savez comment je suis, j'essaie de répondre à tout le monde. J'ai commencé par les messages textes, je suis même pas rendu au courriel encore, et certainement pas aux messages par Messenger et les autres formes. C'est extrêmement touchant, c'est un déluge, c'est un tsunami, et puis tu peux pas faire autrement que dire, ben coudon. Mais moi, c'est pas tellement au niveau du volume. Ce qui me touche particulièrement, et ça a même été dit par Anne-Marie Dussault vendredi dernier sur son plateau, parce que j'ai accordé une entrevue en direct à Anne-Marie à 24-60, et Anne-Marie, elle était... On a été tous les deux aux larmes parce que j'ai fini par parler de Paul un peu dans l'entrevue. Puis Anne-Marie, évidemment, se rappelait aussi le décès de son jeune frère il y a plusieurs années. Donc, je veux en venir, c'est que son réalisateur, juste avant d'aller en onde, il dit « Pierre, ça va nous faire tellement de bien, cette entrevue-là. » Ben, j'ai dit « Pourquoi? » Ben, il dit « Tout a été tellement lourd et noir toute la semaine, ça va nous faire du bien. » Et là... Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que des gens aient choisi que ça leur fasse du bien à eux aussi. Je ne sais pas si le dis correctement et modestement. Oui. Là.
Écoute, Pierre, il y a un auditeur parmi d'autres qui savait qu'on allait se parler aujourd'hui, puis il a pris le temps d'écrire quand même un bon message. Puis je trouve que ça résume tellement le feeling de bien du monde qui... Littéralement, Pierre, on grandit avec toi. Puis je veux saluer PO parce qu'il a vraiment pris le temps d'écrire quelque chose de bien. Puis je pense que ça va résumer peut-être le feeling puis l'amour qu'on peut t'envoyer à partir de Québec. PO a écrit, et je cite, « Je tiens à féliciter Pierre personnellement. J'ai 35 ans et je peux dire sans problème que j'écoute Pierre depuis au moins 30 ans. Mon amour du hockey est en partie grâce à lui et je l'écoute avec la même passion lorsqu'il est avec vous en onde, puisqu'il a tellement plus que ses connaissances sportives à partager. Je me souviens que je l'écoutais en cachette à l'âge de 5, 6, 7 ans, à m'endormir sur le plancher du corridor chez mes parents parce que je voulais toujours finir les parties. Merci pour cette passion et cet exemple de professionnalisme, de préparation et de loyauté. Dans une génération où les gens changent de job comme ils changent de bobette, vous êtes un grand monsieur et le temple de la renommée, vous le méritez autant que les grands du hockey. Votre gentillesse est équivalente à celle du grand Jean Béliveau et votre fougue à celle d'un certain Maurice Richard.
Wow! Écoutez, je suis renversé. Merci. PO, c'est ça?
Oui.
Ben, merci beaucoup. C'est très, très touchant. Bien sûr qu'il y a toute une génération aussi qui a grandi avec moi, une génération qui n'a pas connu les autres descripteurs de hockey, et particulièrement ceux qui ont marqué l'histoire du hockey à la télévision, à commencer par René Lecavalier.
Ben oui.
Et ensuite Richard Garneau. Et ensuite, ben, il y a quand même eu Claude Kenville. Puis il y avait Lionel Duval qui le faisait à la radio.
Oui.
Et ainsi de suite. Et puis, il y en a eu d'autres. André Côté qui a fait les Nordiques pendant plusieurs années. André, malheureusement, est décédé beaucoup trop jeune, il y a plusieurs années. C'était un grand, grand ami. Ça a été un des premiers collègues que j'ai eu à la radio en 75. Donc, il y en a eu quand même plusieurs qui ont marqué autant l'histoire du Canadien que l'histoire des Nordiques. Mais c'est sûr que la longévité y est pour quelque chose. PO dit qu'il a 35 ans, puis il a 30 ans de souvenirs. Et lui, il disait qu'il trichait pour m'écouter. Paul et moi, on avait l'habitude de faire ça avec nos petits radios transistors à l'époque, dans notre chambre. Je vois qu'on ça aussi, ça a fait des petits.
Les jeunes amateurs de sport ne changent pas. Hein. Ils veulent se rendre à la fin des games.
Oui, il y en a un autre. Cependant, il y en a un autre qui m'a arrêté dans un commerce de détail il n'y a pas si longtemps. Puis lui, il disait à l'inverse, il dit, votre voix, j'écoute votre voix, puis mon premier souvenir, c'est de partir à pleurer. J'ai dit, ben pourquoi donc? Ben il dit, c'est parce que votre voix, quand j'étais tout petit, ça voulait dire, il est l'heure d'aller te coucher. Mais je voulais pas, et je voulais pas aller me coucher. Je voulais regarder la première période. Je voulais pas. Alors, mais là, je pense que vous comprenez, c'est ce qui me touche vraiment, mais vraiment plus que tout au monde, c'est tout ça. Et oui, effectivement, Audrey, on finit par le réaliser, qu'on le veuille ou non. Et puis, j'ai eu un appel de Régent Tremblay, un appel personnel qui a duré 20 secondes. Je n'ai pas pu prendre l'appel, alors Régent a laissé un message, 20 secondes. Il a dit, je suis heureux que toi, tu puisses le recevoir de ton vivant.
Ah.
Et c'est clair qu'il faisait allusion à Paul, parce que moi, la première fois que j'ai été témoin d'un tel déluge, là, c'est quand Paul est décédé et quand on a ouvert la chapelle ardente au planétarium, quand on a vu les reportages incessants à la télé, dans les médias écrits, à la radio et ainsi de suite. Et c'est drôle parce que c'est quand tout a été fini, qu'on était dans l'avion mardi, au retour de Toronto, j'ai dit à Aline, ouais, vraiment, j'ai une émotion parce que j'aurais aimé ça que Paul le vive de son vivant, toute l'affection, tout l'amour qu'il vient de recevoir. Alors, je pense que c'est un autre cadeau qu'il m'envoie, mon cher frère, de là où il est.
Il y a quand même, c'est très beau ce que tu dis, puis la réflexion de Régent Tremblay, on peut l'appliquer tellement souvent, puis des fois même, on a eu des opportunités qu'on a laissées passer. Est-ce que c'est avec Pat Burns qu'il y avait eu une controverse où les gens faisaient pression pour qu'il soit honoré de son vivant, pour qu'il puisse vivre la reconnaissance, puis que finalement... les étoiles ne se sont pas alignées. Je trouve ça malheureux. T'sais, souvent, on a ce réflexe-là parce qu'on prend tout le monde pour acquis, parce qu'on prend la vie pour acquis. Puis là, oups, quelqu'un décède soudainement. Puis là, on a plein de choses à dire, on a plein d'amour à donner, mais la personne n'est plus là pour le recevoir. C'est les gens autour qui le reçoivent. Ça a cette part-là de positif. Mais on a cette vilaine habitude, des fois, de trop attendre, Pierre, hein?
Oui, tu as absolument raison. Mais moi, là, tu donnes vraiment un exemple. Parce que moi, je suis très fier, très, très fier d'avoir fait partie d'un comité qui avait l'intention de rendre hommage à Pat Burns.
Ah, tu étais là-dedans, Pierre!
Et qui a livré l'aréna Pat Burns à Stansted.
Mm.
Stansted, pour ceux qui ne savent pas, c'est aux frontières des États-Unis.
Oui.
Hein, c'est vraiment, vraiment à la frontière. Je ne sais pas quelle est la ville immédiatement de l'autre côté, là, mais Stansted, c'était... Et Pat n'a pas grandi à Stansted. Bon, mais c'était son refuge préféré. Il adorait aller à Stansted, dans le comté de Memphremagog et tout ça.
Oui.
Et puis, à un certain moment, j'ai un ami... qui dit, écoute, on a un nouvel aréna à bâtir. En fait, on veut bâtir un nouvel aréna tout près du collège. Et il dit, on voudrait absolument que ce soit au nom de Pat Burns. Mm. Alors, il a dit, est-ce que tu acceptes de faire partie du comité? Alors, j'ai fait partie de ce comité-là. Et évidemment, bon, je n'ai pas supervisé la construction, je n'ai pas supervisé tous les travaux, mais c'était quand même surtout pour mettre le mouvement en marche et s'assurer que le nom de Pat Burns allait être immortalisé de cette façon-là. Et je le dis en vraiment entre deux grands courants d'émotions, parce qu'on a réussi à faire la cérémonie et Pat était vivant et Pat était là, il en était très touché. À l'opposé, Denis, il en était à ses derniers jours.
Oui, je me souviens
des
images.
Tu te souviens, hein? Bon, ouais. Et puis, et quand tout a été fini, il a dit, écoutez, je n'ai pas la force, mais j'aimerais ça qu'il y ait quelques personnes qui viennent me retrouver dans le petit salon en arrière. Il m'a fait l'honneur de que je sois un de ceux-là. Et avec le recul, je suis tellement content qu'on a réussi à le faire. Sur le moment, tu dis, waouh, c'est déchirant quand même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais au moins, on avait réussi à le faire. Alors, c'est ce que tu souhaites. Tu souhaites que si quelqu'un mérite une certaine forme de reconnaissance, eh bien, qu'elle lui soit dévolue, qu'elle lui soit donnée avant son décès, bien sûr.
C'est que des fois, Pierre, on a le... Je sais pas si c'est le bon mot. On a le luxe de voir venir les choses. Je pense au niveau politique à Brian Mulroney. Brian Mulroney, je crois, quelques jours avant son décès, on savait que ça achevait, puis on avait organisé une grande réunion où tous les gens qui avaient été importants pour lui avaient pu le saluer une dernière fois, puis ainsi de suite. Puis je me souviens d'entrevues où Lucien Bouchard, qui a été un allié, puis un rival, puis qui ne se sont pas parlé pendant des années, avait profité de cette porte-là pour renouer avec son ancien ami, puis c'est avec beaucoup d'émotion qu'il disait « C'est incroyable le nombre d'années qu'on a perdu à être boqués chacun de notre bord. » Quand la vie nous donne le luxe de voir ces choses-là venir, puis d'être capable de réparer des ponts qui sont brisés, c'est de l'émotion qui n'a pas de prix, là.
Ah, ça n'a pas de prix, puis on en a déjà parlé, toi puis moi, puis... Tu sais, souvent, je te dis vieillir, il n'y a pas grand avantage à vieillir. mais il y en a quelques-uns dont cette espèce de constatation-là dont tu viens de parler, la constatation que l'horloge de la vie fait que, mon Dieu, qu'on a traîné des problèmes pour rien et, mon Dieu, que tout aurait pu être plus simple. Mais c'est pas aussi simple que ça, dans le fond.
Ben oui.
Moi, j'ai toujours pensé que la leçon ultime, tu l'as à ton dernier souffle, tu l'as à ton dernier moment. Alors, mais ça, je pense que c'est à chacun d'interpréter et chacun d'avoir sa propre philosophie, pour ne pas dire sa propre croyance. Mais je pense que... Mais je répète, moi, ce que j'aimerais qu'on retienne de tout ça, c'est qu'on retienne que j'ai été extrêmement reconnaissant à toute cette vague d'amour, mais aussi heureux que ça rende les gens heureux. Puis là, je vais revenir à mon dimanche soir la semaine passée,
oui.
Parce que la plupart des gens que j'avais invités, famille, amis et collègues de RDS, même mes deux anciens présidents, Denis, M. Jeuneteau, notre tout premier qui est venu à 82 ans, M. Jeuneteau est parti de Sudbury en avion, puis s'est venu à Toronto, puis Jerry Frappier qui a été notre président pendant tant d'années par la suite. Ils étaient là, ma garde rapprochée de production RDS, ceux avec qui je travaille le plus souvent et quotidiennement. Tout le monde est venu à ses frais, tout le monde est venu en organisant son propre horaire, son propre agenda. Et on s'est fait un souper, pas improvisé, parce qu'on l'avait un peu planifié, mais informel, disons ça comme ça,
okay.
Dans un resto le dimanche soir. Et puis le resto a été très gentil, on avait deux tables, ils ont dit « on va vous mettre dans un même petit salon ». Imagine-toi que Serge Savard rebondit à notre souper, parce qu'il était avec mon ancien président, puis il disait, est-ce que je peux me joindre à vous?
Mais là,
soyons, Serge, écoute, viens-t'en. Et là, ça a été... Et puis à un moment donné, Sylvain, mon agent, qui a pris beaucoup de vidéos, il y a des témoignages de tout le monde, il dit, tu réalises-tu comment tout le monde est heureux? Puis ça, pour moi, c'est la première chose que je vais retenir. Puis quand le réalisateur d'Anne-Marie Dussault m'a dit, ça va faire du bien parce qu'on est heureux pour vous. J'ai fait RDI le dimanche matin avant de quitter pour, par avion pour Toronto. On est heureux, on est content. C'est comme si collègues, amis, gens des médias au Québec en prenaient un morceau. Puis c'est ça que je voulais, qu'ils en prennent un morceau. Comme chacun des auditeurs, chacune des auditrices qui sont avec nous présentement. Et puis, ce que j'ai pu faire hier soir pendant l'émission, pendant deux minutes, c'est de remercier un groupe que je n'avais pas pu remercier directement. C'était tous les spectateurs qui ont été tellement fidèles et tellement supporteurs du hockey RDS depuis 35 ans. Et ce que j'ai hâte de faire lundi soir sur la glace du Centre Bell, c'est de remercier les spectateurs qui sont là, parce que plusieurs de ceux-là sont aussi des téléspectateurs.
Ben oui.
Et remercier aussi la direction du Canadien, parce que je suis payé par RDS, je suis engagé par RDS. Mais malgré les déboires de l'équipe présentement, le Centre Bell, ça demeure le temple du hockey.
Ouais.
Puis moi, ma reconnaissance, c'est que j'y vais à tous les deux jours, enfin, quand on est à Montréal, et je m'y sens comme à la maison. Alors, là, je l'ai trouvé le mot. Tu te rappelles la semaine passée? Ah, ben, t'étais pas là, mais je disais à Véro, je suis pas encore capable de trouver le mot. Ben, je l'ai trouvé le mot, c'est reconnaissance. Mm. Et reconnaissance envers tellement de gens, finalement.
Est-ce que... J'essaie de trouver les bons mots, puis c'est pas nécessairement facile, mais est-ce que c'est une façon de terminer une année particulièrement difficile avec une certaine zénitude?
C'est une excellente question, Denis, mais ce feeling-là est arrivé quand j'ai reçu l'appel de notre président d'association au mois de mai. Enfin, pas terminé complètement, mais quand tu parles d'un vent, tu sais, un gros vent froid là, qui ouais. tourne, ça devient une belle petite brise réconfortante, c'est quand Chuck Caton m'a téléphoné. Puis il m'a dit, ben bravo, t'es le récipiendaire du trophée Foster Hewitt. Comment ça va dans ta vie? Et bien là, j'éclate en sanglots, puis là, je raconte qu'est-ce que je viens de vivre pendant un an et demi. Et il dit, ben écoute, il dit c'est merveilleux. Puis tout de suite, je pense que je te l'avais dit, j'ai eu un mot de remerciement pour Paul, mais pour Paul Senior aussi.
Mm-hmm.
Évidemment, ma mère est aussi importante, mais ma mère, ça fait un peu plus longtemps qu'elle nous a quittés. Dans le cas de mon père et dans le cas de Paul, ou les deux Paul, c'était beaucoup plus récent. Alors, je te dirais que, et depuis ce moment-là, il y a plein de belles choses qui sont arrivées. Et je ne veux pas tomber là, dans dans les gros sermons puis dans la grosse croyance et tout ça. Je répète, chacun a son terrain là-dessus. Mais moi, ça m'a comme apaisé. Ouais. Ça m'a réconcilié avec les événements. Parce qu'il n'y a pas seulement ça. Il y a d'autres choses que j'ai vécues personnellement qui ont été extrêmement difficiles aussi et extrêmement douloureuses. Et donc, quand ça arrive, tu as tout à fait raison. Donc, ce n'est pas tellement le gala il y a quelques jours. C'était plutôt à partir de ce moment-là. Okay. Puis c'est comme si c'était un processus qui s'étire dans le temps. Là.
Pierre, on parle avec beaucoup de philosophie. Ça fait drôle de redescendre sur le plancher des vaches. Puis en même temps, ben on sent moins mal hein, à être des compagnons d'infortune, les partisans des Bruins et les partisans du Canadien. Je regardais le score des deux games hier, puis je me disais, ouais, il faut trouver notre bonheur ailleurs par les temps qui courent.
C'est drôle parce que Marc et moi, avant de monter dans l'autobus hier soir, on s'est dit exactement la même chose. On regardait les pointages à l'étranger, puis on s'est dit, oh, oh, bon, alors, c'est quoi l'expression? Quand on se compare, on se console? Ouais, ben remarque, ton infortune est moins pire que celle des partisans du Canadien. Hey, parce que toi, t'es encore dans le mix.
Ouais, je suis dans le mix, là, mais je peux-tu te donner les statistiques de mon gardien but numéro 1?
Ouais, tu peux, si tu veux, parce que ouais. C'est sûr que ça commence par là.
Écoute, Jeremy Swayman, qui a signé son gros contrat et qui s'est fait donner le lead devant le filet des Bruins, c'est 5 victoires, 6 défaites, 2 défaites en prolongation. C'est une moyenne d'efficacité de 0.888 et une moyenne de 3.35 buts par match. C'est des statistiques qui sont vraiment pas bonnes là, pour les gens qui connaissent pas les statistiques de gardien de but. Si t'es en bas de 900, puis si t'es à 3 buts par match et plus, t'es dans le trouble.
Et c'est le deuxième pire différentiel de la section
ouais.
Atlantique. Et c'est le troisième pire différentiel de l'association Est. Alors ça, c'est pas Boston, hein? C'est pas typique des Bruins.
Ah, ils se font huer, là. Il y a eu un match la semaine passée, je crois, contre les Sénateurs d'Ottawa, où pendant la troisième période, il n'y a pas eu un seul tir au but.
Ouais.
Puis l'équipe s'est fait huer par les partisans solides.
Oui, ben écoute, c'est parce que Boston, dans le fond, Denis, c'est pas la première fois qu'on se parle de la situation qui les guette. Boston, ton équipe a le très grand mérite d'avoir repoussé les limites, dans le fond,
oui.
De son destin. Parce que Boston, autant il y a 2 ans, même il y a 2 ou 3 ans, même l'année passée, cette équipe-là aurait dû, en principe, frapper un mur.
Tout le monde le disait.
Ben voilà, puis, et c'est pas arrivé. Donc, c'est pas arrivé à cause, évidemment, en grande partie de ton extraordinaire duo de gardiens. C'est arrivé aussi en partie par des joueurs de très grand caractère qui avaient encore la rage au cœur et qui voulaient prouver qu'ils appartenaient à la Ligue nationale. Mais là, je pense que Boston, puis on peut mettre peut-être Pittsburgh hein, dans la même équation.
Eh mon Dieu, oui.
Je pense que les Bruins puis les Pingouins vivent la même réalité maintenant. Et dans le fond, c'est peut-être un petit peu, je ne sais pas, de vendre une consolation facile aux partisans du Canadien.
Qui en ont besoin.
Il y en aurait besoin, mais il n'y en a pas de facile. C'est Claude Ruel qui le disait, il n'y en aurait pas de facile. Mais je pense qu'au moins le Canadien a, comment dire, confronté cette réalité il y a quelques années et a posé des gestes qui, il l'espère, vont aller dans la bonne direction.
Techniquement, ils ont de l'avance, Pierre.
Bien, c'est ça. Ben, dans le fond, techniquement, Ottawa aussi a de l'avance. Mais je regarde où sont les sénateurs. C'est pas bien plus fort non plus par rapport aux attentes. Mais oui, en principe, ils ont de l'avance, les sénateurs. Le Canadien a de l'avance. Et autant chez les Pingouins que chez les Bruins, il faudra éventuellement dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait devant l'inévitable? Mais à quel moment tu prends cette décision-là? Je vais te donner un exemple. Si tu es Barry Trotz à Nashville, tu as dépensé combien de centaines, tu as 200 quelques millions l'été passé. Nashville n'a pas plus de victoires que le Canadien. Mm. Comment tu gères ça? À quel moment tu dis, ben là, voilà, ce qu'on voit, c'est ça. Puis si c'est ça, ça veut dire qu'il faut prendre des grandes, grandes décisions. Il faut aller à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Et il faut frapper fort. Mais à quel moment tu frappes fort? Alors, au moins, une équipe qui a admis sa relance ou sa reconstruction, appelle ça comme tu veux, au moins, en principe, cette équipe-là a des longueurs d'avance. L'autre facteur, cependant, il ne faut pas que tu te mettes la tête dans le sable non plus. Est-ce que tu as basé ta reconstruction sur les bons joueurs, sur les bons jeunes athlètes? Mm-hmm. Et moi, il y en a carrément qui m'inquiètent. Toi, c'est ton gardien de but, puis tu as tout à fait raison. Uh-huh. Puis il n'est pas vieux.
Ben non.
Tu regardes Kirby Doc chez le Canadien. Mm. C'est inquiétant, Denis. Puis moi, je me réfère beaucoup à mon partenaire, Marc, qui a joué pendant plusieurs années. Je me réfère même au personnel d'entraîneur. Je me réfère à tous ceux à qui je parle et qui ont une très vaste expérience du hockey. Ils sont inquiets aussi. Ils me disent, ben voyons, ça n'a pas de sens.
Hey, on voyait sa perte l'an passé comme presque une catastrophe pour la saison du Canadien, puis on s'attendait vraiment à ce qu'il reprenne là où il a laissé, puis on n'est pas à la même place. Là.
On n'est pas à la même place du tout. Mais comment tu conclus? Est-ce que tu dois conclure que Swayman a été surévalué, que Swayman a profité de Hallmark? Est-ce que Swayman... Bon, bref, tu peux avoir un paquet de théories, mais il n'y en a aucune que tu peux vérifier de façon scientifique.
C'est ça.
Jusqu'à un certain moment. Kirby Doc, on s'attendait tous à ce que ce soit difficile pour un mois. Peut-être le calendrier préparatoire. Mais là, on est rendu pratiquement à l'action de grâce américaine. Tu sais, on dit souvent que c'est ça le coup près, hein? l'action de grâce américaine. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis dans son cas? Qu'est-ce que tu dis dans le cas de Newhook, qui avait un grand potentiel? Qui a une vitesse incroyable, il explose comme j'ai rarement vu un patineur avec le Canadien dans les dernières années. Il explose, mais il n'arrive plus rien. Mais là, tu dis, bon, est-ce qu'on a tous été aveuglés par les réputations, par la carrière junior, par certains talents qu'ils possèdent, mais ils ne sont pas capables de concrétiser quand c'est le temps? C'est très difficile. Puis je comprends la frustration des partisans. Parce que je le sais, quand on est partisan, moi, avec les Packers, là, je peux dire c'est des hauts puis des bas. Mais je peux très bien comprendre la frustration. Puis les gens s'attendent à ce qu'on ait des réponses. Nous, qui couvrons l'équipe, mais on ne les a pas. Imaginez-vous si les entraîneurs ne les ont pas, les réponses.
Ben là,
on ne les a pas plus, nous autres.
Puis, il y a un gros point d'interrogation qui demeure. Puis celui-là, ben, je commence à avoir hâte d'avoir des réponses à ce niveau-là parce qu'on ne l'a pas vu jouer beaucoup dans l'uniforme du Canadien. C'est quoi les dernières nouvelles concernant Patrick Laine?
Ben écoute, les dernières nouvelles, je ne peux pas dire que c'est des nouvelles, mais ce que je sais, c'est qu'il est sur patin de plus en plus.
Oui, on l'a vu.
Il patine en solitaire.
Mm-hmm.
Et puis, ben écoute, le temps va vite. Hein? Tu sais, on disait une fenêtre de 2 à 3 mois. Tu es déjà dans le 2 mois, Denis?
Oui, c'est vrai.
Tu sais, c'est arrivé au début du calendrier préparatoire. Tu es déjà là.
Est-ce qu'on a eu des sons de cloche qui vont revenir avant Noël?
Aucun son de cloche. Puis je ne voudrais pas vous amener sur un mauvais terrain, là,
ouais.
sur une mauvaise rumeur. Moi, ce que je crois cependant qui est très, très rassurant, c'est qu'il soit sur patin, qu'il soit capable de plus en plus à pousser, à avoir de bonnes enjambées, et ça, pour moi, c'est rassurant. Moi, mon bémol, c'est, et c'est pas moi qui le dis, parce qu'il a été très ouvert là-dessus, c'est qu'il a refusé l'opération. Il a dit, je vais essayer comme athlète avec l'accord de l'équipe, je vais essayer d'éviter l'opération, et donc de jouer avec un genou renforcé, un genou de développé pour essayer de contrer le problème que j'ai.
C'est un gamble.
Ben, Denis, est-ce que ça va être suffisant? Tu sais, c'est ça le problème, c'est que personne en a la certitude. Mais au moins, ce qu'il y a de rassurant, c'est de le voir évoluer. Mais moi, ce que j'espère, Denis, c'est qu'avant qu'il revienne, ce que j'espère, c'est que lui devait faire partie d'un deuxième trio qui allait enfin nous amener dans le mix, comme on a dit.
Le mix.
Mais là, le deuxième trio, pour l'instant, là, il est inexistant. Mm-hmm. Moi, c'est vraiment ça qui me fait peur. Puis je ne fais pas le procès des athlètes. Martin Saint-Louis essaie de brasser la soupe pour éparpiller son attaque puis partager ça. Il y a un troisième trio qui lui donne grande satisfaction. C'est vraiment Gallagher avec Anderson, là, peu importe avec
écoute,
qui.
Écoute, Gallagher a une saison du tonnerre. Là. Il n'y avait pas cette intensité-là l'an passé. Là.
Non, tu as absolument raison. Il a vraiment retrouvé beaucoup d'énergie puis oui. beaucoup de passion.
De grit.
Puis, oui. Puis Josh Anderson, il a accepté son rôle. Mm-hmm. Anderson a accepté que ce ne serait pas un marqueur de 20-25 buts.
Ouais.
Puis il a son importance. Il a jeté les gants, il frappe, il joue en infériorité, il est excellent. Tu leur donnes Evans, tu leur donnes Dvorak. C'est un troisième trio qui est très respectable dans la réalité du Canadien. Le quatrième, bien là, on va un peu l'oublier, là, à défaut d'avoir un quatrième trio de luxe. Le vrai problème, présentement, c'est que tu n'en as pas de vrai deuxième. Tu n'en as pas un deuxième trio qui doit livrer ce qu'on pensait qu'il devait livrer.
Ouais.
Fait que est-ce que Lainé, si tu mets Lainé avec Dak et avec Newhook, est-ce que c'est la solution pour relancer le Canadien? Au moment où on se parle, Denis, moi, j'y crois pas. Parce qu'il faudrait que les deux dont je viens de te parler montrent des signes de fierté, d'engagement.
Qui ne sont pas là.
Qui ne sont pas là présentement. Exactement.
Pierre, je suis vraiment content que l'organisation du Canadien souligne ce qui est arrivé dans la dernière semaine. Je vais regarder ça lundi avec beaucoup d'attention avec les boys. Il y a eu un beau vidéo aussi qui a circulé où on a vu beaucoup de joueurs du Canadien te rendre hommage dans la dernière semaine. Et dans ce vidéo-là, bon, tu vas dire que moi, je suis tout le temps, j'ai jamais le focus à la bonne place, mais j'ai appris que tu faisais des paris sportifs de football avec des joueurs du Canadien dans ce vidéo-là. Et là, à la lumière de la qualité des Packers cette année, moi, je veux qu'ils te restent de l'argent pour tes vieux jours, Pierre. Je te demanderais d'arrêter de gager sur le football avec des joueurs du Canadien, s'il te plaît.
Ben, écoute, c'est un petit pari amical de 10 $ US avec Nick Suzuki. Alors, et ça a été fait spontanément dans l'avion. Mais je te trouve très sage en terminant, mon cher Denis, parce que honnêtement, les Packers cette année font partie de la meilleure section du football de la NFL. En fin de semaine, c'est un gros, gros match contre les Bears, qui sont derniers dans la section, mais qui sont loin d'être éliminés encore. Mm. Les Lions de Détroit, c'est un rouleau compresseur. Les Vikings sont en avant des Packers. Alors, c'est pas le moment de commencer à parier aveuglément sur mon équipe, parce qu'il y a encore beaucoup de doutes qui persistent. Mais à 1h dimanche, tu sais où est-ce que je suis. Je suis sur le pouf. Avec les deux pieds dessus, et puis je regarde les Packers contre les Bears.
Dis-moi que tu vas être en boxeur avec ton jacket du Hall of Fame.
Ah! Hey, Denis, je ferai jamais ça à Aline.
Parce que là, j'aurais demandé une photo, Pierre. Là. C'est le genre d'affaire qu'il faut garder en archive.
Peut-être qu'elle veut ça, Aline, aussi. Là. Ouvre une porte, Pierre.
Je vais me garder une petite gêne.
Pierre, en terminant, c'est une expression qui est maintenant reconnue dans le monde du sport. Selon toi, tes Packers, là, sont-tu dans le mix?
Ah, ils sont dans le mix.
Ils sont dans le mix. OK, c'est bon.
Ils sont dans le mix. En fait, dans la définition que moi, je fais du mix, peut-être que c'est moi qui ai mal compris ou nous tous qui avons mal compris. Mais non, les Packers sont vraiment dans le mix.
Pierre, encore bravo. Plein d'amour à partir de Québec. Passe un beau week-end.
Ah, puis merci vraiment à tout le monde encore une fois. Ben, à vous personnellement, bien sûr, à Boulevard. Mais vraiment, tous les gens qui prennent ce temps, Vous ne savez pas à quel point c'est touchant et à quel point ça me fait une grande chaleur.
Je te renvoie la balle. Merci de continuer de nous faire une petite place dans ton horaire, Pierre. C'est apprécié énormément.
Un grand plaisir. Salut.
Bye bon bye. Vendredi. Bon salut.
Week-end. Bon week-end. Salut. Notre ami Pierre Houde qui venait de revenir à domicile à Montréal. Il devait y avoir un entraînement du Canadien ce matin du côté du Minnesota. Finalement, ça a été annulé. Les avions sont partis un peu plus tôt. On devait pré-enregistrer cette conversation-là. Et finalement, Pierre est arrivé à la dernière minute. On n'a pas eu le temps de se parler, on n'a pas eu le temps de se briefer. On a ouvert les micros et on s'est parlé.
Mais c'est les meilleurs moments.
Ben écoute, moi j'aime ça de même. J'aime ça de même. Donc, c'est une conversation. Si vous êtes arrivé dans les dernières minutes, là, c'est une conversation qu'on va retrouver sur la chaîne YouTube de Boulevard 102.1.
Sur le site de Boulevard aussi, blvd.fm, je vous mets ça là dès maintenant. Puis je trouve ça fascinant de voir que... En fait, c'est ce que je préfère de Pierre, son petit côté humble, terre à terre, qui se rend pas trop compte, qui... Ça rend ça encore plus mignon, tu sais. C'est facile de l'admirer parce que lui agit seulement par passion. J'ai toujours trouvé ça vraiment hot de lui, puis les textos continuent de rentrer.
Tu sais, il y a des timings que je trouve importants dans la vie, puis tu sais, je me demandais qu'est-ce que je lui disais directement puis qu'est-ce que je lui disais pas, parce que tu sais, je veux pas le faire broyer en onde, là, c'est pas ça le but. Là. Pierre, je l'aime beaucoup, puis je veux pas jouer du violon avec. Je veux qu'il soit à l'aise avec nous autres. Oui, oui. Mais je trouve tellement que le timing est génial.
Oui.
Dans le sens où il y a eu des moments difficiles. Il a perdu son père, il a perdu son frère. Puis de l'honorer là pour ses 40 ans de carrière, puis pour ce qu'il représente, parce que il dirait que non, mais il est le René Le Cavalier de notre génération. Puis René Le Cavalier, pour nous autres, Audrey, là, c'était le nom que tout le monde disait. Le français, tu sais, comment s'exprimer dans les médias, c'était René Le Cavalier.
La référence
en lettres majuscules. Évidemment, la vie étant ce qu'elle est, la génération qui est la tienne, qui est celle de mes enfants, René Le Cavalier, ça veut rien dire. Mais pour eux autres, la référence, ça va être Pierre Houde.
Ouais.
Pour exactement les mêmes raisons, exactement de la même façon.
Je fais toujours attention quand je parle, quand on parle à Pierre.
Ben, moi aussi, j'essaye. Là. Des fois, je m'échappe, là, mais ça donne ce que ça donne.
Je me resserre un petit peu. Là.
Ben là, hein, c'est de la belle visite. Hein.
Faut, tellement.
Faut bien pareil.
Faut être poli.
16h35. On fait une courte pause. On revient. Vous êtes à Boulevard dans le retour.